Salam alaikum, ici les randonneurs de la pensée. Aujourd'hui, on a un invité assez spécial, Farid Slim. Toujours avec nous, Anes. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui fais l'introduction. Anes est un petit peu fatigué. Non, je plaisante. Alors, on a changé les rôles un petit peu. Et donc, voilà, Farid Slim, qui est entre autres conférencier, imam, qui a une licence en sociologie et d'autres diplômes en sciences religieuses. Donc, salam alaikum Farid, salam alaikum Anes.
Salam alaikum Mohamed.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Je te laisse te présenter et nous en dire un peu plus sur ta personne.
Sur ma personne, je sais pas si je suis bien placé pour parler de ma propre personne.
L'autobiographie.
L'autobiographie, je suis Farid Slim, je suis né en France. J'ai grandi en France, je suis comme tous les jeunes un cursus scolaire normal, hein. Donc j'ai fait collège, lycée, j'ai passé mon bac. J'ai été donc à l'université où j'ai fait une licence socio, mais j'ai pas eu la licence, je me suis arrêté avant.
D'accord.
Je me suis arrêté avant parce que bon, j'ai eu des soucis avec les professeurs à un moment donné, dans mon cursus, donc j'ai préféré arrêter. Après, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que je m'oriente vers les sciences religieuses. Donc j'ai suivi un cursus de 4 ans pour me former dans les sciences religieuses. J'ai aussi en parallèle fait une formation dans la langue arabe et dans le Coran. Donc depuis maintenant un petit bout de temps, hein, ça doit faire 15 ans, 16 ans, je suis dans l'enseignement. Donc j'ai commencé avec l'Institut Chatibi de Lyon. Donc, où j'ai été enseignant pendant plusieurs années, je crois 4 ans. Après, du coup, on a monté un projet en fait sur Chambéry, donc où on a mis en place donc le centre El Andalus.
D'accord. Toi, tu es de Chambéry. Hein.
Ouais, à la base, je suis de Chambéry. Voilà. Donc, on a mis en place le centre El Andalus en 2009, et depuis 2009, donc j'enseigne sur place. Je suis directeur pédagogique et en même temps, j'étais en parallèle imam jusqu'au mois de fin octobre où j'ai décidé de me concentrer sur ma mission au sein du centre et j'ai arrêté ma mission d'imama au sein de la mosquée. Donc je suis marié, je suis père de 6 enfants. Voilà, en gros mon parcours.
Okay. Tu peux nous en dire un peu plus sur l'avant-licence, comment tu as grandi à Chambéry, ton environnement, parce que c'est souvent ce qui nous intéresse ou ce qui intéresse les personnes, c'est comment la personne en est amenée à se former et à prendre ce cheminement plutôt qu'un autre, un parcours tel que le tien.
Non, j'ai grandi comme un peu comme les jeunes, n'importe quel jeune, hein, que ce soit en France, on vivait dans une ZUP, donc alhamdoulilah, donc on a eu des parents qui sont issus de l'immigration, qui sont venus en France donc pour travailler, donc ensuite mon père s'est marié avec ma mère, donc on est arrivé vite, on est grandi.
T'es de quelle origine ?
Je suis d'origine algérienne.
D'accord.
D'origine algérienne, l'Est algérien. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que bon, je suis une scolarité normale. Ma famille, c'était pas une famille, comme beaucoup de familles à l'époque maghrébine, pas forcément dans la conviction religieuse, mais plutôt dans un héritage traditionnel de l'islam. Mm-hmm. Donc il n'y avait pas vraiment de pratique au début. Et ça, jusqu'à l'âge de... Quand j'ai eu 10 ans, en fait, c'est à cette époque-là où ma mère, que Dieu lui fasse miséricorde, parce qu'elle est décédée... Elle a commencé à assister en fait à des assises pour sœurs dans le quartier qui étaient menées par une dame qui a fait beaucoup de travail, de da'wa, de prédication, de rappel auprès des gens dans le quartier. Et elle a commencé la prière à ce moment-là. Moi, j'avais 10 ans et demi. Et lorsqu'elle est rentrée, qu'elle a fait la prière, je l'ai vue faire la prière. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait. Et elle m'a dit, je fais la prière. Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire la prière.
À 10 ans, tu ne savais pas ce
non,
que c'est
non,
que
non, non, parce que dans ma famille, à part le jeûne de Ramadan, on ne faisait pas grand-chose. C'était vraiment, comme je dis, vraiment très traditionnel. Il n'y avait pas vraiment de conviction religieuse. Les gens le faisaient, le Ramadan, plus par tradition. Mais il n'y avait pas derrière le tarawih, il n'y avait pas... Et puis le reste de l'année, oui, il n'y avait pas de prière, il n'y avait rien. C'est pour ça que j'ai vraiment découvert la prière à cet âge-là. Et puis, parce que même dans mes proches, il n'y avait pas que mes parents, mais même mes oncles.
C'était quelle époque ça, à peu près ?
C'était les années 80.
D'accord.
Moi, j'ai commencé la prière en 86.
D'accord. Tu t'en souviens, donc.
J'avais 10 ans, donc je m'en souviens. Et donc, j'ai commencé la prière, et depuis ce temps-là, donc après... Quand j'ai fait la prière, donc, et mes parents, ils ont évolué aussi spirituellement. Mon père s'est mis aussi à faire la prière derrière. Donc petit à petit, il y a eu aussi une ambiance un peu plus spirituelle qui s'est installée à la maison. Et j'ai grandi un peu comme ça, cette période de 10 ans jusqu'à l'âge de 18-19 ans, où je faisais la prière, mais sans trop savoir pourquoi je devais la faire. Donc il y a des fois, je la faisais, des fois, je ne la faisais pas. Quand j'avais besoin de Dieu, je faisais la prière. Quand j'en avais moins besoin, je la faisais moi. Et donc, on a grandi, on a traversé un peu l'adolescence, voilà, dans cet état d'esprit de, à la fois. Donc j'avais cet attachement à la prière, mais je ne savais pas pourquoi. On ne m'a pas expliqué pourquoi il fallait la faire. Vu qu'on a, on avait nos parents, ils n'avaient pas forcément appris pourquoi. Et donc ils ne pouvaient forcément pas nous enseigner le sens de ce qu'ils faisaient. Et c'est là où on voit quand même que la colonisation a fait beaucoup de mal aux générations de nos parents, de nos grands-parents, parce que avant l'arrivée de la France en Algérie, là, il y avait très peu d'analphabétisme en Algérie. Le peuple algérien, c'était un peuple très cultivé. Et il y a eu vraiment un travail d'acculturation et de perte de repères à la fois scientifiques et identitaires, par le travail de la colonisation. Après, on nous parle des aspects positifs. Certains parlent des aspects positifs de la colonisation. Il n'y en a pas tant que ça. Et donc, du coup, nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On ne peut pas leur... On ne peut pas leur jeter la pierre, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et donc on avait un islam plutôt comme ça, de tradition, sans vraiment comprendre ce qu'impliquait la foi. Et donc j'ai grandi comme ça. Donc je sentais le besoin d'être avec Dieu, donc je priais quand j'en ressentais le besoin en fait.
Donc tu t'es un peu construit, on va dire,
c'est dans un premier temps, culturel. Dans un premier temps, c'était ça.
Et après, comment tu t'es construit?
Alors, ce qui s'est passé, donc moi je suis passé, j'ai un parcours un
dans
peu...
Dans ta pensée, je veux dire dans ta pratique.
Oui, comme tous les jeunes, on a fait comme ça, je suis passé, en fait à un moment je suis passé par le hip-hop. Ah. Donc j'ai fait du rap. Ouais. J'ai fait du rap pendant combien de temps?
Deux, trois ans. Il y avait qui comme rappeur le plus populaire à ce moment-là?
À l'époque c'était, il y avait quand même, moi j'ai connu... des gens qui sont assez célèbres. Donc c'était les débuts du fameux Booba, des Lunatiques, les Psychiatres de la Rime aussi. On les connaissait bien, Ayam, on a fait un peu des trucs. Ouais. Ouais.
Okay.
Donc après moi je me suis arrêté vraiment au moment où on commençait vraiment à avoir de la collaboration avec ce genre d'artistes. Donc j'ai pas vraiment connu, mais je sais que ceux qui ont continué par la suite, ils ont été très proches de ces gens-là, notamment Soprano, tout ça. C'est quelqu'un qu'on connaît.
Il y a des enregistrements de l'imam
Non, moi, oui, il y a des enregistrements, mais pas avec ces gens-là.
Tout a été effacé.
Non, ça existe encore. Parce que nous, on a fait ça avec mes frères. Donc mes frères, ils ont encore des trucs. Des fois, ils me chambrent un peu. Et bizarrement, c'est ce passage-là qui m'a poussé un peu à approfondir ma réflexion. C'est-à-dire dans le fait d'écrire des textes et de me lancer dans le fait de réfléchir sur des thèmes. Parce que nous, on n'aimait pas le rap un peu comme aujourd'hui, où c'est fait pour animer plus qu'autre chose. On aimait bien le rap avec des textes qui ont du sens et qui appellent quand même à dénoncer certaines choses. Et donc dans ce travail-là de réflexion, subhanallah, ça m'a recentré aussi un peu sur mon orientation, ce que je voulais dans ma vie. Et plus j'écrivais, et plus ça me poussait à me poser des questions sur le sens de mon existence, de mon orientation. Et petit à petit, subhanallah, j'écrivais même des textes où j'exprimais ce besoin de comprendre. Donc le sens, et c'est tous les derniers textes que j'ai écrits, ils vont dans ce sens-là. La plupart, ils vont dans ce sens-là. Et puis, en fait, il y a plusieurs événements qui m'ont poussé à prendre un peu la route, une route différente. Et notamment, parmi les éléments, c'était lorsque je suis arrivé à l'âge de 18 ans, quand je vais passer mon bac. Moi, j'ai eu une scolarité où, alhamdoulilah, Allah ta'ala, il m'a facilité l'apprentissage. C'est-à-dire, il suffisait que je regardais une chose ou que j'écoute une chose, je le retenais. Donc, je n'ai pas vraiment été quelqu'un qui a travaillé beaucoup... durant ma scolarité, puisque je retenais ce que... En cours, j'écoutais. Et puis, quand je posais mes yeux sur une chose, je le retenais. Donc, J'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour. D'ailleurs, ma mère, souvent, elle me réprimandait parce qu'elle pensait que vu que je travaille pas, j'ai pas de mauvais, j'ai des mauvaises notes, etc. Et donc, quand on est arrivé à. En même temps que le hop, je faisais aussi du basket. Donc, j'aimais bien le basket. Je passais beaucoup de temps à jouer au basketball. J'ai même été diplômé pour être entraîneur. Donc j'aimais bien. J'ai fait de l'arbitrage. Et puis, l'année du bac, en fait, au lieu de réviser pour le bac, je jouais toujours au basket. Et à deux jours du bac, ma mère, elle disait toujours « J'en suis sûr que tu ne peux pas avoir ton bac, toi. C'est pas possible. J'ai jamais vu quelqu'un, il ouvre pas un livre, il a son bac. » Je lui dis « Non, tu verras, Inch'Allah, tout va bien se passer. » Elle m'a dit « Non, je sais que tu ne vas pas l'avoir. » Et pour le coup, subhanallah, le jour du bac, la première épreuve, c'est l'épreuve de philo. Ouais. Et là, je rentre dans la salle, je m'assois et je me rends compte que je vais passer mon bac. J'ai un déclic, je ne sais pas pourquoi. D'un coup, je dis « Mince, t'as pas révisé, Farid. Tu ne vas pas avoir ton bac. » Et là, je me suis retrouvé, subhanallah, vraiment dans une situation d'indigence. Vraiment, là, j'étais vraiment... Il n'y a personne qui peut me venir en aide. Subhanallah, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est d'invoquer Allah.
Pendant l'examen.
Avant l'examen.
Avant, ouais.
Juste avant. Et j'ai levé mes mains comme ça. J'étais imaginé dans la salle d'examen. Et j'ai commencé à parler à Allah. Et je fais, Ya Rab, je sais que je n'ai pas révisé. J'ai fait, mais je sais que si je n'ai pas mon bac, ma mère, elle ne sera pas contente. Et je dis, je jure, Ya Rab, si tu me donnes mon bac, eh bien, je serai plus sérieux dans ma pratique. C'est un engagement que je prends avec toi. Je ferai plus attention. Et subhanallah, quand j'ai fini d'invoquer Allah Azzawajal, donc le surveillant, il passe, il nous donne les copies de philo. Et là, donc, il pose la copie devant moi. Le sujet, est-ce que l'homme peut vivre sans Dieu? Pas de hasard. Et donc, j'ai vu ça comme un signe. Hein. Et donc, j'ai pris... Il y avait d'autres sujets, mais c'était celui-là qui m'avait. Et donc, j'ai fait donc une dissertation sur cette notion-là, est-ce que l'être humain peut vivre sans Dieu. Et donc, après, bon, je passe mon bac. Et puis, le jour des résultats, j'étais avec un ami. Il me dit, viens, on va regarder. J'ai fait, non, mais moi, ça sert à rien. Je ne vais pas voir. Je sais que je ne l'ai pas. C'est pas la peine. Hein, je vais pas me faire mal plus que ça. Et puis, il est parti voir les examens. Et puis, il revient. Il était heureux. Il me dit, ouais, j'ai eu mon bac. Il me dit, mais toi aussi, tu l'as eu. Je fais, non. Il dit, si, je te jure, tu l'as eu. Et donc, j'ai eu mon bac. Et donc, quand je suis rentré, j'ai annoncé à maman que j'avais mon bac. Elle ne voulait pas me croire, bien sûr. Elle croyait que je me moquais d'elle. Donc, je lui dis non, j'ai bien eu mon bac. Et le lendemain, subhanallah, j'ai été au lycée pour aller chercher mon bulletin de notes, en fait.
D'accord.
Et subhanallah, j'ai eu mon bac. Et je commence à regarder les notes. Et puis, je voyais mon prof de philo. Il était au fond, comme ça, de la salle. Et il me dit, monsieur Slim, venez voir. Parce qu'en fait, moi, en philo, je détestais ça. Mmh. C'était au point, mais il fallait voir. Hein. Je n'étais pas forcément un bon exemple, un peu moins, même si je ne suis pas encore un exemple aujourd'hui, mais je l'étais encore moins à l'époque. Pendant les cours de philo, on faisait des jeux devant le prof. C'est tellement, il nous disait, mais si ça ne vous intéresse pas, sortez de la classe. Et nous, on lui disait, mais non, on ne peut pas sortir, sinon on va nous mettre absent, donc on est obligé de rester là. Donc le prof... Il m'appelle, il me dit, venez voir, monsieur Slim, il dit, dites-moi, vous avez triché. Oh. Je dis, ben non. Je dis, pourquoi vous dites que j'ai triché? Il dit, non, mais vous avez 4 de moyenne à l'année. C'est pas possible que vous ayez cette note. Et moi, je dis, mais quand même, quelle note j'ai eue? Et il me dit, non, mais c'est pas possible, vous avez triché. Je dis, mais monsieur, j'ai fait une dissertation. Comment vous voulez que je triche? Je connaissais pas les sujets. Et puis, il me dit, mais allez voir votre note, vous allez voir, c'est pas possible. Il était choqué, le prof. Et puis, donc, je vais voir mes notes et j'ai eu 16 en philo.
En philo. Ouais,
et si j'avais pas eu 16, j'aurais pas eu mon bac.
C'est la philo qui t'a sauvé.
C'est la philo qui m'a sauvé, c'est pas bon. Et donc, vu que j'avais pris un engagement avec Allah Azza wa Jal, que si j'avais mon bac, bah, je serais un peu plus sérieux dans ma pratique. Et bah, je me suis mis un peu à me mettre un peu plus sérieusement dans cette même pratique. Donc, j'ai commencé déjà à faire attention à mes prières. Avant, je les négligeais un petit peu. Et ben, J'ai décidé d'être plus sérieux. J'ai commencé à fréquenter la mosquée, à fréquenter effectivement des gens qui éveillent un peu donc ma foi à Dieu. Et subhanallah, de fil en aiguille, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la question spirituelle, sans pour autant m'orienter pour le moment vers un cursus de formation religieuse. Donc je me suis inscrit à la fac, j'ai fait de la socio. Là, je suis tombé sur un prof, un maître de conférence en TD. Il n'arrêtait pas de nous dire en gros que les enfants issus de l'immigration sont voués à l'échec. Et j'étais le seul étudiant d'origine maghrébine dans ce TD. Et au début, je disais rien, mais après, je lui dis, mais c'est pas possible, vous dites n'importe quoi. Je lui dis, la preuve, c'est que moi, je suis ici. Et il me dit, mais vous êtes une exception à la règle. Et donc, moi, connaissant effectivement le fait que j'avais beaucoup d'amis qui réussissaient dans leurs études, je les contredis, donc il n'a pas aimé. Et quand je l'ai critiqué un peu dans son analyse, il m'a dit, vous sortez de mon cours, je vous veux plus. Et de toute façon, je ne vous validerai pas votre année. Donc, je suis parti voir à l'époque l'administration pour lui expliquer ce qui s'était passé. L'administration m'a fait comprendre que ils n'avaient pas assez de profs. Donc, s'ils devaient renvoyer tous les profs qui avaient ce genre d'attitude, ils se retrouveraient sans prof à l'université. Donc, j'ai pris mon mal en patience. J'ai essayé de retourner en TD avec lui. À chaque fois, il me dit non, je ne vous veux pas. Donc, j'ai fini l'année en fait sans assister au TD. Et le problème, c'est que c'était quand même une matière éliminatoire si je l'avais pas, donc pour passer pour pouvoir valider mes acquis. Et donc j'ai passé la première année, en deuxième année, donc c'est ça, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc quand j'ai voulu passer les examens, je me rappellerai toujours le jour où je suis rentré dans la salle d'examen, il m'a vu au fond, il m'a dit comme ça, il a fait comme ça, un signe de la tête pour dire je t'ai reconnu, toi.
Je vais pas te
Et
louper.
le souci, c'est qu'à l'époque, le seul département où les copies, elles n'étaient pas anonymes, c'était la sociologie. Donc ils savaient c'est qui faisait les vals. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer quand même. J'ai passé l'examen, je pense que ouais, je méritais quand même la moyenne, au moins. Il m'a mis exprès une note éliminatoire, il m'a mis 4. Il fallait 5 pour pas être éliminatoire. Il m'a mis 4. Et donc je me suis dit à un moment, bon, allez, c'est pas grave, on va essayer quand même. Puis j'ai réessayé en septembre au rattrapage. Et quand je suis arrivé au rattrapage, je rentre dans la salle, il me voit, il me
Mais
fait le même
encore là.
geste. Il me fait le signe, je t'ai reconnu.
Mais il n'y a pas
Donc,
moyen de revoir les copies.
en fait, non, parce que, comme j'ai dit, il y avait un souci
Ouais,
avec
l'administration,
l'effectif.
il laissait faire.
Et donc, il laissait faire. Donc, du coup, quand il m'a fait le deuxième fois le geste, j'ai même pas tenté de faire l'examen. Je suis reparti.
Toi qui es un petit peu dans le. Enfin, tu es beaucoup dans le contact avec
Ouais.
générationnel, que ce soit les jeunes ou les
Ouais.
moins jeunes, est-ce que tu penses que ces injustices-là existent encore aujourd'hui?
Je pense qu'elles doivent exister. Ouais. De toute façon, on le voit. Moi, je vois, j'ai des enfants. Et je vois, des fois, mes enfants, ils me disent que, par exemple, sur des travaux de groupe, il y a certains professeurs qui ne jugent pas le travail de mon fils ou de ma fille de la même
La
façon que les
même,
autres, en
ouais.
fonction de la différence d'origine.
D'accord. Donc, comment tu gères ça? Quel conseil tu pourrais
Ben
donner
après,
à
moi, je dis à mes enfants
peut-être
que
plus au-delà de
malgré
tes enfants,
tout.
mais à des jeunes
Mais de
qui.
manière générale, ce que je conseille à des personnes qui sont victimes de ça, c'est de ne pas lâcher. Moi, j'ai fait l'erreur de lâcher. À l'époque, j'étais jeune, il n'y a personne, moi, qui m'a dit non, accroche-toi, c'est pas grave, patiente, essaye d'une autre façon. J'étais seul, j'avais pas encore des gens autour de moi qui m'encourageaient à patienter. Donc, du coup, j'ai tout simplement lâché. Mais aujourd'hui, moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est qu'il faut s'accrocher, même si en face de nous, on a des gens qui ont une attitude discriminatoire. À un moment, il faut être le meilleur, quoi qu'il en soit, même si les personnes elles ont des attitudes discriminatoires, on ne peut pas non plus faire fi de l'excellence quand elle est devant nous. Donc, moi, ce que je conseillerais aux jeunes, c'est d'être les meilleurs. D'être les meilleurs et de
Est-ce que ça
vraiment.
aujourd'hui ça a un impact sur les cours que tu donnes, les conférences, la dawa, etc. Le fait que justement tu sois passé par ce chemin un petit peu cabossé. Bon, après.
Non, je pense qu'effectivement, ça, Allah, il a voulu que j'aie ce parcours-là. C'est pas anodin. Ça m'a permis de construire certaines choses et de comprendre certaines choses. Avec le recul maintenant, bien sûr, il y a les années qui passent, donc on le prend différemment et on le perçoit autrement. Au moment où ça s'est passé, je l'ai perçu comme une injustice, hein, ça c'est sûr. Je l'ai vraiment mal vécu, hein. C'était, en gros, voilà, encore une fois, on nous ramène toujours à nos origines. Et, mais avec le temps, ben, maintenant, c'est plus une expérience qui permet de comprendre que voilà, la vie, elle est pas comme, des fois, elle n'est pas comme nous, on voudrait qu'elle soit, mais il faut faire avec. Et c'est plutôt à nous d'essayer de faire changer les choses que de la subir.
Après, est-ce que quand tu t'es introduit, tu as parlé de tes origines, la colonisation, les effets négatifs ou néfastes de la colonisation, est-ce que ça, la gestion de ce conflit, on va dire, bon, c'est pas un simple conflit, est-ce que c'était pas ancré en toi, en tant que fils d'immigrés, avec toutes les injustices qu'avaient subies nos parents, etc. Est-ce
Non,
que tu
non,
l'as
mais ça,
peut-être
c'est
pas allé
sûr.
frontalement, je veux dire, plutôt que.
C'est sûr qu'à l'époque, j'avais pas la même réalité qu'aujourd'hui, qui fait que effectivement, déjà, je pense que j'étais aussi construit à travers des préjugés, parce que nous, on a une éducation aussi en tant que, surtout pour les gens qui sont issus de l'immigration algérienne, où voilà, nos parents ont subi la colonisation. Donc, ils n'ont pas forcément un bon souvenir de ce qu'ils ont vécu de la colonisation. Et donc, on grandit en France où on a des parents qui nous expliquent qu'on n'est pas français et qu'un jour, il faudra qu'on retourne chez nous. Et donc, en même temps, toi, tu es né en France, tu grandis en France, tu te construis une identité quand même qui a des repères français. Donc, en fait, tu es complètement déboussolé. Parce qu'à la fois, tu ne te sens pas algérien, parce que tu n'as pas vécu en Algérie, c'est bien pour partir aux vacances. Profiter un peu, voir la famille, mais tu te sens pas au fond de toi vraiment quelqu'un qui a une culture, une mentalité, une construction algérienne. Voilà. Et en même temps, tu as en face de toi des fois des gens qui te font comprendre que tu n'es pas français non plus. Et donc, oui, c'était une période un peu, c'est pour ça que je pense que j'ai fait du rap, etc. C'est qu'on était un peu aussi dans une période de revendication. De recherche un peu de repères aussi identitaires. Et je pense qu'à l'époque, oui, j'ai réagi aussi par rapport à ça. Avec le recul, aujourd'hui, c'est sûr que je me dis que si c'était dans un cas de figure qui se présenterait aujourd'hui, je ne le gérerais pas de la même façon,
D'accord.
ça clair. C'est clair. Mais ce qui m'a fait évoluer, c'est l'islam. C'est le fait de comprendre ma religion. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment enfermé effectivement dans ces préjugés-là. On nous aime pas, de toute façon, les Français c'est des racistes.
Dis
Voilà.
ça parce que voilà, dans les jeunes de banlieue, il y a beaucoup de
Ah ouais, c'est ça.
cette mentalité-là et c'est
C'est
contre-productif. À la
ça, c'est
finale, c'est eux les
contre-productif.
perdants. C'est eux les perdants.
Voilà, mais
C'est-à-dire,
moi ça m'a fait perdre mes
voilà,
études, hein. C'est
exactement.
pour ça que je dis que c'est pas intelligent, la manière dont j'ai réagi à l'époque. Avec le recul, je pense que j'aurais fait autrement. Mais en même temps, je me dis, ben c'est ça aussi, c'est que ça fait partie de mon parcours et c'est ce qui m'a permis aussi de me construire. De me construire. Aujourd'hui, je ne perçois pas les choses de la même façon, mais ça fait partie quand même de ma personne. Hein. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez. J'ai du mal à supporter les injustices, de manière générale. Ça, c'est une chose qui m'insupporte, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit vis-à-vis d'un musulman ou d'un non-musulman. Et ça, en vérité, c'est ma personnalité qui est comme ça, parce que dès tout petit, j'étais comme ça. Moi, à la primaire, des fois, je me bagarrais avec des gens pour d'autres. Pour défendre les autres. C'était pas pour moi. C'est pour défendre ceux qui subissaient l'injustice parce qu'on leur volait un truc, on leur prenait un truc. Et c'était toujours le fort qui venait prendre au faible. Donc moi, je défendais le pauvre petit qui se faisait martyriser par le fort. Et c'était un peu comme ça. J'ai grandi un peu comme ça. J'étais pas un bagarreur, mais quand ça m'insupportait de voir des gens qui rabaissaient des autres ou qui humiliaient les autres ou qui utilisaient, en fait, qui usaient de leur force. Ou de voilà des avantages qu'ils avaient pour rabaisser des personnes. Donc ça, c'est vraiment ça fait partie de ma personnalité. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une chose qui m'insupporte. C'est-à-dire, on peut moi m'insulter, on peut, mais je supporterai pas qu'on le fasse pour quelqu'un d'autre. C'est une chose que j'aime pas. Donc j'estime que chacun il a le droit au respect et à la dignité. Et autant on peut le supporter pour soi quand on s'adresse à soi, mais j'ai vraiment du mal à le supporter quand il s'agit d'un autre.
Donc après l'université, c'est là où
Alors,
tu commences à.
l'université, donc j'ai arrêté. Donc du coup, quand j'ai arrêté, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à travailler. Parce que je me suis dit au moins que je reste pas sans rien faire, quoi. Et là, c'est là où j'ai eu le projet de mariage. Et donc, alhamdoulilah, je me suis marié. J'étais jeune, hein, j'avais 21 ans. Et donc pour le coup, Quand je me suis marié, ma mère est morte tout de suite derrière. Donc, elle a eu un cancer et ça l'a emporté très vite. Mais subhanallah, Allah il fait pas les choses au hasard, parce que quand elle, juste avant qu'elle tombe malade, subhanallah, je me souviens que quand moi je suis revenu, parce que c'est aussi dans cette période-là où j'ai fait ce retour vers Dieu, et dans ma famille ils n'ont pas compris ce retour à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui où, alhamdoulilah, la question de cet éveil spirituel, de cette pratique, c'est devenu quelque chose qui est devenu familier. Moi, quand ça m'est arrivé, c'était à l'époque où il y avait le GIA, les attentats du métro, tout ça. Et donc, surtout quand on était de famille algérienne, il y avait Khaled Kalkal et tout ça. Donc, les parents, ils flippaient. Ils flippaient, ça y est, il va finir dans un métro. Moi, ils voyaient que j'allais à la mosquée, je lisais du Coran, des trucs comme ça, je priais beaucoup. Et ça, ma famille, ils l'ont plutôt mal vécu au début. Hein. Ils ont pris ça comme... plutôt comme une forme d'agression pour eux, parce que vu que c'était un islam plus traditionnel, pas trop dans la pratique, je me suis retrouvé un peu, à part mon père qui, alhamdoulilah, donc, m'a soutenu un peu dans ça, mais je suis devenu un peu le vilain petit canard de la maison. C'est-à-dire que même mes frères, ma famille, mes proches, ils me voyaient comme un fou. Tout ça parce que je pratiquais, parce que je voulais plus faire certaines choses, que j'avais décidé d'abandonner certaines façons de vivre. Et après, je pense aussi que moi, je manquais un peu de sagesse à cette époque-là, parce que je n'avais pas encore commencé mon cursus d'apprentissage. C'était plus le cœur qui parlait. Et donc, je pense qu'il y avait aussi des maladresses de ma part. Mais ouais, c'était un bouleversement quand même de la part de l'environnement familial, parce que c'était quelque chose qui leur était étranger, de donner beaucoup d'importance à la pratique religieuse, au Coran et à sa façon de se comporter. Et donc ouais, on avait même envisagé de me chasser de la maison.
Il y avait quoi à ce moment-là comme influence sur le marché de pratiquants? Il y avait quoi comme influence?
C'était à l'époque, c'était les débuts du salon du Bourget, des trucs comme ça, donc ouais. C'était un peu cette influence là les débuts de l'UJM à Lyon, donc c'était un peu c'était des étudiants qui venaient du Maghreb, qui apportaient avec eux cette idée de renouveau musulman, donc bien sûr ça parle tout de suite, hein. Donc après et à un moment, mes parents, ils ont eu vraiment peur, parce qu'ils voyaient, ils comprenaient pas en fait ma démarche. Moi, j'ai été jusqu'à, je me rappelle que ma mère, la Rahma, elle m'avait dit, oui, je vais mettre une clé je vais fermer ma chambre à clé quand je vais dormir. J'ai peur un soir que tu rentres, tu nous égorges. C'était violent. Et donc ça, je l'ai vécu un petit moment, pendant quelques mois, c'était assez violent. Après, alhamdoulilah, ma famille qui était très 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 hostile à ce changement, petit à petit ils ont commencé à changer, parce qu'ils ont vu qu'en fin de compte c'était du fantasme. Et par la suite, ma mère, du jour au lendemain, elle a complètement changé son attitude. Elle m'a demandé de l'amener à la mosquée, de lui présenter des personnes qui l'aident à apprendre sa religion mieux. Et subhanallah, quand elle a commencé vraiment à faire un véritable effort sur elle, de réforme spirituelle, c'est là où elle est tombée malade, subhanallah, et elle est décédée. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pris au bon moment. Et donc, entre temps, moi j'étais dans une démarche de mariage, et 12 jours avant le mariage, donc ma mère, avant de mourir, elle me fait jurer de ne pas annuler mon mariage. Donc elle est décédée 12 jours avant que je me marie. Et donc quand je me suis marié, c'était pas vraiment une fête pour nous, mais vu que j'avais promis que j'annulerais pas, on n'a pas annulé. Et puis à partir de ce moment-là, donc moi j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai travaillé, Allah il voulait pas que je fasse ce que j'étais en train de faire. J'ai fait un accident de travail. Et pour le coup, ça m'a laissé du temps pour pouvoir m'orienter dans les études, en fait. C'est là où j'ai commencé à m'inscrire à toute forme de formation et à me verser un peu plus dans l'apprentissage, hein, que ce soit donc la langue arabe, le Coran ou même les sciences religieuses. Donc C'est un temps que Dieu l'a voulu que je fasse. Et à chaque fois, après, même quand j'ai repris mon activité, j'ai essayé de repartir sur autre chose.
Ouais,
Allah, il n'a pas voulu que je
ça.
reparte sur une autre chose.
Et c'est fait où? C'est fait comment? C'est fait de localement ou c'est là où?
Non, mais après,
Ouais.
l'Institut Usuldin, c'est un institut qui est à Paris,
À
à
Paris.
Saint-Denis.
Donc dès le début, tu t'es dit, je vais aller quelque
Après,
part
eux,
pour. Ouais.
ce qui est bien, c'est qu'ils proposaient en fait une formation à
D'accord.
distance. Donc j'ai fait ça, donc ce qui m'a permis de rester sur Chambéry par rapport à ça. La langue arabe, j'ai vu avec un institut égyptien, donc où on avait appris la langue arabe. Et puis pour le Coran, c'était pareil. Par la suite, c'était un institut sur Paris qui proposait une formation dans le Tajwid.
T'étais déjà arabophone, Farid?
Non, je connaissais pas un mot d'arabe avant
D'accord.
avant
Il y a
d'avoir
beaucoup de jeunes
20,
aujourd'hui qui
21 ans,
partent.
quoi. À partir du moment où j'ai commencé à apprendre. Non, non, j'avais appris quand j'étais petit, mais j'avais complètement oublié.
D'accord. Ouais,
Comme
c'est
tous les
l'école.
parents qui ont les écoles avec l'amicale.
Voilà,
Bon, à l'époque,
exactement,
c'était
avec
pas
la
les mosquées,
règle.
c'est l'amicale qui nous faisait ça.
C'était
Et
le bâton, si.
on y allait, en vérité, on n'avait pas envie d'y aller.
Ouais.
Donc, forcément, quand t'as pas envie d'apprendre, t'apprends pas. Et là où je me suis vraiment mis après, c'est à partir de, oui, de 21 ans, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Et puis depuis, ben, j'arrête pas d'apprendre. On n'a pas arrêté là.
Ouais. Et moi j'ai une question sur la mosquée, parce que là, dans tout ce parcours très intéressant, on parle de la mosquée comme ça a commencé par le rôle qu'a joué la mosquée pour introduire un petit peu l'islam à la famille. Ça, c'est les années 80. Et puis après, quand tu disais que je commençais à être sérieux, il y avait la mosquée. Est-ce que le rôle de la mosquée, comment il a évolué pendant ce temps-là?
Non, le rôle, il a toujours été central. Moi, je sais que moi, ma mère, quand elle avait appris, c'était pas à la mosquée. C'était en fait à l'époque,
Ah, il n'y avait pas de...
il n'y avait pas
Ah,
encore vraiment de mosquée sur le quartier,
d'accord.
mais il y avait des personnes en fait qui bénéficiaient de salles dans le centre socio-culturel
D'accord.
où ils les laissaient en fait parler d'islam. À cette époque-là, ils n'étaient pas trop allergiques à la question de l'islam dans les structures publiques. Donc
D'accord.
c'est comme ça qu'elle a appris. C'est dans des cercles comme ça, dans des salles où on lui a appris les principes de l'islam. Après moi, effectivement, donc c'est la mosquée sur le quartier où j'étais, elle a été implantée en 1994.
94.
Ouais. Et c'est là, après, bon, à partir du moment où on avait une mosquée au centre-ville, mais c'était un peu loin, on n'avait pas trop envie d'y aller. Par contre, à partir du moment qu'il y a eu sur le quartier, ce qui était bien, c'était une mosquée aussi. Le projet, il a été initié par des jeunes, donc avec vraiment une vision, voilà, qui correspondait en fait à nos attentes, nous, en tant que jeunes. Donc c'est ce qui aussi nous a encouragés à y aller. Et je pense que même la mosquée que je fréquentais, c'est l'une des premières mosquées en France qui a fait le khotba en français. Donc ça nous a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand on allait le vendredi, on avait quand même le khotba de Jumu'ah où l'imam parlait aussi en français. Donc l'imam de l'époque, c'est l'imam Mounir. Et ça.
C'est un imam qui venait du
Lui, à la
Maghreb.
base, où il était étudiant du Maghreb, après il est venu, et puis
D'accord.
par la suite, il est devenu imam à la mosquée. Et c'est vrai que voilà, ça nous a beaucoup aidé d'avoir en fait des personnes qui parlent notre langue. Ça, c'est important pour comprendre les principes de notre religion. Et en même temps, alhamdoulilah, c'était des personnes très spirituelles. Donc, c'était pas comme après où il y a eu cette vague de cet islam rigoriste qui est complètement dénué de toute forme de sagesse et hein, cette dureté, cette rigidité dans la compréhension des choses. Alhamdoulilah, on est tombé dans une époque où on a eu quand même des gens qui alhamdoulilah, avaient beaucoup de sagesse dans la façon d'enseigner l'islam et ils nous ont fait aimer. Ils ont fait aimer justement le fait de vouloir apprendre et approfondir les choses. Et donc, alhamdoulilah, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup aidé. Après, bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi après des efforts personnels qui doivent être faits. Ça suffit pas aussi d'avoir un cadre, il faut le vouloir. C'est pour ça que je dis souvent, après, il y a des gens qui veulent, mais ils n'ont pas forcément des prédispositions pour ça. Je pense qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il donne des prédispositions à chacun. Il y en a qui sont faits pour des choses, d'autres pour d'autres choses. Et moi, j'ai senti que j'étais à l'aise dans ça, en fait. Alhamdoulilah, j'ai senti que voilà, j'étais bien. Je me sentais bien dans ce genre de choses. Et c'est ce qui m'a poussé à faire encore plus d'efforts, à la fois dans l'apprentissage, mais pas que. Parce que pour moi, l'apprentissage, ce n'était pas juste la théorie. C'est qu'il fallait aussi vivre ce que je disais, c'était très important. Voilà, c'est pas seulement apprendre, dire des choses, mais aussi les appliquer, les pratiquer. Mm-hmm. Ça, c'est très important, et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, ça a été, ce parcours, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que quand j'apprenais, c'était dans le but toujours, avant tout pour moi. C'était pas pour apprendre, pour transmettre. C'était avant tout pour moi mettre en pratique et mieux, et pouvoir améliorer ma relation à Dieu et aux autres. Ça a toujours été comme ça. Avant tout, c'est une démarche avant tout pour moi-même. Et je suis tombé en fait dans l'enseignement. Vraiment, c'est pas moi qui l'a voulu. Hein. C'est que moi, j'apprenais, j'étais toujours dans cette démarche pour moi, personnelle. Et du coup, un jour, on était dans un cercle et l'imam, justement, Mounir, il m'a demandé de faire une intervention. Et moi, je lui ai dit, mais non, moi, je ne fais pas ça. Et parce qu'on avait beaucoup discuté, il a jugé que j'étais en capacité de faire ça. Et du coup, j'ai fait une intervention. Donc c'est là où j'ai commencé à faire des interventions un peu dans des cercles comme ça, locaux. Et puis, il y avait un imam aussi de Lyon, qui, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Cheikh Hussein Oumali. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il est imam à la mosquée de Lyon-Mermoz. Hein. Et lui, en fait, il était aussi conférencier, donc il devait faire une conférence à la librairie Tawhid.
Ouais, à Lyon.
À l'époque, à Lyon. Et du coup, il a eu un empêchement au dernier moment et il m'appelle 3 jours avant. Il me dit, voilà, Farid, il faut que tu fasses une conférence. Je lui dis, mais j'ai jamais vu ça, moi. Il dit, non, mais je sais que tu peux le faire, donc tu vas le faire. J'ai l'impression que j'aurais déjà donné ton nom, tu vas le faire à 3 jours. Et donc, j'étais bloqué. Je lui dis, mais non, mais je peux pas le faire. Il me dit, si, si, tu vas le faire. Et donc, je me suis retrouvé à faire la première conférence à Châtelby. C'était en 2003 ou en 2004, je crois. Et du coup, la conférence s'est bien passée par la grâce d'Allah Azzawajal. Et donc, les frères de Tawhid, ils m'ont réinvité. Mm-hmm. Et donc, j'ai fait plusieurs interventions. Et puis, après, de fil en aiguille, ils m'ont demandé si je voulais intégrer le cercle des enseignants dans la formation. Ils m'ont donné un module au sein de l'Institut. Ils m'ont donné juste un module la première année. Puis, quand ils ont vu que ça se passait bien, ils m'avaient proposé de m'embaucher, de rester en fait... à la fois donc enseignant chez eux et directeur pédagogique.
Donc à ce moment-là, tu étais toujours à Chambéry.
Et je faisais les allers-retours.
D'accord, ok. C'est un gros effort quand même.
Oui, alhamdoulilah. Après, donc, en parallèle aussi, donc, voilà, ça, j'ai commencé chez eux en tant qu'enseignant en 2007. 2007, et donc après, donc, j'ai fait 2007, 2008, 2009. Jusqu'à 2011, 2012 même. Donc j'ai commencé à travailler au sein de Châtelby. Et donc, alhamdoulilah, les frères, c'est eux qui m'ont permis vraiment. Ils m'ont, je pense qu'ils ont été parmi les gens qui m'ont beaucoup aidé. Donc il y a l'imam Hussein qui m'a un peu mis à l'eau. Hein. Et puis derrière, alhamdoulilah, il y a aussi les frères de Châtelby qui ont fait confiance. Derrière aussi, j'ai eu aussi des... Machallah, des machaïrs qui m'ont encouragé, notamment donc Cheikh Youssouf Ibrahim, qui a eu vraiment une attitude très encourageante envers moi et qui m'a poussé à faire plus. Et alhamdoulilah, qu'Allah ta'ala le récompense, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que voilà.
Lui passe salam, on a eu l'occasion de l'inviter pour ceux qui veulent écouter
l'autre. C'est quelqu'un avec une grande, très très grande sagesse. Et donc pour le coup après, donc voilà, donc c'est l'Institut Châtelby, c'est eux qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier hein, sur la question de l'enseignement. Donc j'ai enseigné pendant 4 ans là-bas. Après donc on avait la volonté aussi sur Chambéry de donc en 2007, j'ai été imam pendant 2 ans, de 2007 à 2009. Après, la mosquée n'avait plus les financements pour pouvoir maintenir l'activité d'imama. Donc du coup, j'ai arrêté avec eux. Mais je me suis dit, en 2009, ça serait bien quand même. J'étais quand même sur place. Ils m'avaient demandé de monter un projet en fait pour les jeunes. Et donc du coup, on a monté, c'est là où on a commencé le projet du centre Al-Andalus. Hein. Voilà. Donc ça a commencé par un cours par semaine. Je me rappelle la première année, on était sur un cours, hein, je crois qu'il y avait 150 jeunes qui assistaient. c'était frères et sœurs. C'était impressionnant parce que et c'est là où on a vu qu'il y avait quand même une vraie demande, une vraie volonté.
L'objectif du cours, le contenu du cours, c'était quoi exactement,
aujourd'hui c'était toujours l'initiation en sciences religieuses, hein.
D'accord.
C'était des cours concernant le dogme, la pratique, l'éthique, la sira, des choses qu'on voit aujourd'hui, hein, dans les instituts qui sont proposés. Donc après, en fin d'année, les étudiants, ils m'ont demandé, ils ont dit, est-ce que ça serait pas bien qu'on développe tout ça ensemble? Moi, j'aurais dit, moi, je peux pas faire ça tout seul. Donc si vous souhaitez qu'on fasse un projet, pourquoi pas, bismillah, mais on le fait ensemble. Et c'est comme ça que le projet, en fait, il est né. Donc on a mis en place un programme, on a mis en place donc des classes. Et donc petit à petit, le projet, il s'est monté. On a commencé en 2009. On a fait 2009, 2010, 2011. Et après, en 2012, on s'est retrouvé quand même avec beaucoup d'étudiants, pas mal de classes. Donc c'est là que j'ai été contraint, en fait, de dire aux frères de Chartibi que je ne pouvais pas continuer à Lyon. Parce que, du coup, sur le centre, j'étais le seul enseignant. Donc ça me demandait beaucoup d'heures.
Les étudiants, c'est essentiellement des locaux, des gens de Chambéry.
Aujourd'hui, non.
Mais à l'époque, les 150,
c'était que des locaux.
Donc il y avait vraiment un grand besoin.
Il y avait un besoin. Et donc petit à petit, on s'est formé en association. On a développé le projet. On a commencé. Au début, on faisait juste des cours comme ça d'initiation aux sciences religieuses. Mm-hmm. Après, on a intégré du coup la langue arabe et le tajwid. Ouais, c'était assez contraignant parce que, même jusqu'à aujourd'hui, hein, ça me fait 20 heures de cours par semaine. Mm-hmm. 20 heures de cours par semaine, donc...
J'ai une question là, par rapport à l'association, à l'histoire de l'association. Je discutais la dernière fois, si on compare la situation en France et la situation aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a un projet qui réussit, on le transforme en général en société à but lucratif. Ils le rendent comme un business et puis ils font de la formation, des cours, et puis ça devient un business. Ce n'est pas le cas en France. Les instituts, c'est souvent des associations, c'est lié à des associations.
En tout cas, dans notre perception des choses, l'objectif, c'était de rendre accessible plutôt que de gagner de l'argent. Ce n'était pas l'objectif. C'était essayer de... on était obligé de tarifer la formation pour pérenniser l'activité. On n'avait pas le choix. Mais ce n'était pas dans un objectif de s'enrichir. C'était surtout l'objectif, c'était de permettre d'avoir accès à la compréhension de l'islam.
Après, quand on dit business, je pense que ce n'est pas forcément dans le but
j'ai bien compris ce que vous disiez.
C'est dans la gestion de la structure. Ouais. Voilà, c'est dans la gestion de la structure après, que les choses soient.
Et les responsabilités, la gouvernance,
etc.
Après, nous, c'est vrai qu'on ne s'est pas monté en association parce qu'on n'avait pas encore les reins pour pouvoir tenir. Hein. Maintenant, on gère le projet aujourd'hui, effectivement, où on fait en sorte d'avoir un équilibre dans les comptes, de pérenniser les activités et de financer aussi celle-ci. Mm-hmm. Donc on gère un peu aussi effectivement le projet de manière à le rendre pérenne. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans cet objectif effectivement d'en faire une société. Ça ne veut pas dire que ça ne le deviendra pas. Hein, parce qu'aujourd'hui, l'activité, elle s'est développée. On a ouvert aussi un département d'enseignement à distance. Donc là, cette année, alors qu'on est quand même que sur la deuxième année, on ne fait pas vraiment une grosse com dessus. On a une centaine d'étudiants. Si on compte toutes les classes, on a une centaine d'étudiants en e-learning cette année.
Et ça, c'est orienté plutôt... c'est des études approfondies ou c'est alors, juste pour les enfants qui veulent...
Non, nous on fait... Ce qu'on propose, c'est de la formation pour adultes.
Mm-hmm. Pour adultes.
Pour adultes et la prise en charge aussi des adolescents à partir de 12 ans. Mm-hmm. On leur fait de l'accompagnement pour leur expliquer comment ils doivent comprendre l'islam. Mais à travers vraiment, pour les ados, c'est plus un accompagnement pour leur donner des repères, à la fois dans leur spiritualité, mais aussi dans la réalité, dans la participation citoyenne, etc. Donc on essaye d'introduire aussi des notions d'implication citoyenne et de faire en sorte qu'ils deviennent des éléments positifs dans la société. Après, la formation adulte, oui, c'est des formations de sciences religieuses, de langue arabe. Le Coran, on l'a laissé de côté, du coup, pour l'instant, le tajwid. Mais oui, c'est de là. On était parti à la base sur un projet d'initiation sur 3 ans, avec après des modules de spécialisation. Mais maintenant, on n'est que dans des modules d'approfondissement. C'est-à-dire que même l'initiation, ça n'existe plus. Maintenant, en fait, c'est un programme à la carte. L'étudiant, il s'inscrit, il choisit, je veux faire telle matière, telle matière, telle matière. Et il a tant d'heures en fonction des matières qu'il choisit par semaine.
Au sein de la communauté, on a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets. Et moi, je vois une disproportion entre les projets de construction de mosquées, qui sont aujourd'hui pour moi énormes et qui ne sont pas forcément nécessaires. Et justement, on commence à peine, même si toi, tu es impliqué depuis longtemps, sur des projets d'enseignement. Et donc, quand il parle de business, c'est vrai que quand on regarde un point de vue financier, la mosquée peut... les mosquées, en fait, les responsables de mosquées peuvent concevoir que ça devient concurrentiel. Dire, ah, ceux-là, ils vont nous piquer enfin, je vulgarise un petit peu, excuse-moi, mais voilà. Il y a l'envers du décor, en fait. Ceux-là nous piquer nos donateurs, nos bénévoles, nos projets, même si la mosquée n'est pas aujourd'hui orientée enseignement. Ils le font parce que c'est une demande des parents, etc., depuis les années, depuis certaines années. Mais on a du mal à passer du statut de projet de mosquée purement mosquée, qui pour moi, encore une fois, c'est disproportionné parce que c'est aujourd'hui on a des mosquées à des millions, alors que les millions, il faudrait peut-être les investir dans des projets d'enseignement. Exactement. En l'occurrence, en Andalous, Chatibi, Tawhid, pas Tawhid, excuse-moi, c'est pas de l'enseignement, c'est des maisons d'édition, d'autres sur Paris ou à Lyon. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pour ça qu'il y a l'importance de dissocier le projet par le statut. Voilà, le statut. Une mosquée, ça reste associatif. L'enseignement, ça reste de la formation. Donc, et aujourd'hui, la formation, c'est quasiment un statut professionnel, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que ça amène à des confusions.
Oui, aujourd'hui, de toute façon, même si on est dans un statut d'association, moi, mon statut au sein de l'association, c'est que je suis salarié. Donc, c'est professionnel. Après, aujourd'hui, on a choisi ce statut juridique parce que, comme je t'ai dit, c'est plus par contrainte. On n'avait pas trop le choix. On n'avait pas les moyens à l'époque de pouvoir se lancer dans une aventure de créer une société. Ouais. Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs frères qui nous conseillent effectivement de passer dans ce statut-là. C'est une réflexion qui est menée pour nous en ce moment. On ne sait pas si on va partir dans ça. On ne voit pas vraiment aujourd'hui ce que pourrait nous apporter de manière... même du point de vue fiscal ou des revenus, ce qui pourrait nous apporter plus que d'être en association aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même pour nous, être en association, en vérité, ça nous arrange. Ça nous arrange parce que du point de vue de la fiscalité, il y a quand même des abattements, il y a des choses qui ne sont pas forcément... et puis en même temps, on ne fait pas que de la formation. Donc c'est pour ça qu'on a aussi voulu rester dans ce statut-là, parce qu'en parallèle, au sein du centre, on propose la formation, mais on propose aussi de promouvoir la culture musulmane de manière large pour les non-musulmans, et la question aussi du vivre ensemble. C'est-à-dire qu'à travers ça, on fait aussi des actions socio-culturelles qui vont dans ce sens-là.
Moi, ça m'irrite quand on utilise des mots. Excuse-moi, Farida.
Vas-y, vas-y.
Le vivre ensemble. Donc, ils sont véhiculés par des médias, des essayistes, des bien-penseurs, etc. Et nous, on récupère et encore, on fait le jeu des médias, le jeu des ces-penseurs, etc. Et voilà, c'est comme si on acceptait quelque part d'être je le disais encore une fois
dernière fois la on victime, a eu cette discussion
et moi ça mérite, on a pas le moyen de trouver d'autres concepts, même si le vivre ensemble c'est des termes qui existent bien avant qui ont été récupérés par les orientaux, qui ont été récupérés depuis par le 19e siècle, excuse-moi, par certains orientalistes qui avaient déjà évoqué le problème. Mais moi ça me tue.
Excusez-moi, non, après c'est des mots qui existent.
Après j'emploie des termes qui sont connus, c'est pour ça que je te dis
ça. Voilà, c'est ça.
C'est pas en parce général, que je suis gens, forcément d'accord avec
toi,
le concept.
Intellectuel, oui, mais ça veut dire c'est dans nos esprits, c'est dans nos bouches, c'est dans nos familles, dans nos conversations, etc. Et c'est comme si donc vivre ensemble, on admet que cette vivre ensemble, il est destiné au meilleur des cas aux populations de quartier, d'accord, et aux immigrés, et dans le meilleur des cas, excuse-moi, ces populations-là, dans le pire exclusivement aux musulmans. Donc on vient alimenter ça.
Non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est à nous de effectivement peut-être de proposer d'autres vocabulaires qui répondent mieux à la réalité. Mais ce qui est sûr, oui, il y a des termes aujourd'hui qui peuvent nous interpeller, que ce soit positivement, négativement. On voit aujourd'hui sur les termes comme l'islamophobie, ça interpelle les gens. Même moi, la question, par exemple, quand on parle du mot tolérance, c'est un mot que j'aime pas. Parce que tolérance, ça implique que, bon, tu t'es là, je fais avec toi, mais ça veut pas dire que pour autant...
Ouais, j'accepte, quoi.
Voilà.
Donc j'accepte
je préfère plutôt. Je préfère parler du terme respect que tolérance, tu vois.
Non, mais c'est super important la terminologie.
Je suis d'accord avec toi. Après, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore un autre mot pour définir la réalité du vivre ensemble que le mot vivre ensemble. Donc...
Ouais. Non, parce qu'on s'est laissé, entraîner dans cette voilà.
Mais c'est aussi parce que voilà, quand on est acteur dans une certaine communauté et puis on parle du vivre ensemble, donc. Et comme un projet ensemble, de société et puis
peut-être l'idée c'est d'anticiper les mots, enfin pas les mots, les mots, les problèmes MAUX, les mots, et de se dire voilà comment on va régler, comment on va parler de ça, de quelle manière, dans quel contexte on va l'utiliser, dans quel contexte on va faire évoluer ça. Mais là on attend, qu'il y ait le...
Et toi Mohamed, quel concept tu nous proposes pour le remplacer?
Non, moi j'ai pas réfléchi, mais je me dis déjà revenir à l'histoire. Tu vois, déjà, parce qu'on a l'impression que ce sont c'est une terminologie contemporaine. C'est une terminologie assez récente. Donc, revenir à l'histoire, prendre un peu de recul, c'est de dire non, c'est pas les médias qui. Les médias viennent réinventer un petit peu le terme en fonction du contexte médiatique. Mais de revenir à l'histoire en disant voilà, d'où vient ce concept-là? Oui. Est-ce que c'est purement franco-français? Est-ce que c'est dû à la 5e République ou à les premières immigrations? Ou est-ce que c'est peut-être des concepts d'avant-guerre, etc.? Donc c'est de comprendre un petit peu au mode. Quand on utilise un mot, on sait ce qu'il veut dire.
Mais un mot, il évolue en fonction aussi des contextes et des réalités, Mohamed. Ouais. Tu vois, par exemple, si tu reviens sur des termes qui sont, par exemple, les termes qui sont liés à l'islam, comme la notion de ilm. Le sens et la signification du terme ilm dans le Coran, c'est pas forcément le sens qu'on en a aujourd'hui. Le sens de le fiqh, c'est le sens qui est le premier qu'il y a dans le Coran, tel qu'il évolue, il a pas la même connotation qu'on peut trouver par la suite. Tu vois, donc les mots et les termes, ils évoluent en fonction aussi de l'histoire et des réalités des gens. Et peut-être quelque chose qui a peut-être un aspect péjoratif dans un premier temps, il peut signifier de manière plus objective, des réalités d'un contexte. Le vivre ensemble tel qu'il est connu aujourd'hui ou tel qu'il est compris ou signifié, c'est sûr qu'il n'avait pas la même signification qu'au 19e siècle. Tu vois. Après, c'est vrai qu'il faut prendre en considération toutes les définitions et leurs origines, mais il faut aussi prendre en considération les évolutions que le sens des mots ils peuvent avoir avec l'histoire.
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais quand j'ai l'impression... On n'a pas la maîtrise, voilà ce que je veux dire. On ne maîtrise pas notre environnement, notre actualité. Donc, on vient reprendre un petit peu les pensées de ces soi-disant spécialistes médias, etc. Et finalement, on fait leur jeu.
Mais justement, tant qu'on n'a pas de maîtrise, tu ne peux pas faire autrement. Tu dois parler aux gens avec le langage que les gens comprennent.
Donc, il disait dans le hadith, « Khatibu al-nas ala hasabi uqulihim », « Adressez-vous aux gens avec ce qu'ils sont en mesure de comprendre ». Donc si tu emploies une terminologie qui n'est pas une terminologie qui est comprise par l'ensemble, par la masse, même si tu n'es pas forcément d'accord avec vraiment la signification du phénomène, les gens risquent de passer à côté de ce que tu veux leur dire. Donc à un moment, tu es obligé de passer par des transitions, d'employer certains mots que les gens comprennent pour permettre justement aux gens de pouvoir saisir et cerner l'idée que tu veux véhiculer à travers ton discours. Même si c'est pas forcément, effectivement, les mots n'ont pas la vraie justesse qu'il aurait demandé.
Si on peut revenir à l'Institut l'Andalus, à quel moment on a décidé de séparer l'Institut l'Andalus de la mosquée
Alors, on n'a pas eu trop le choix, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, quand on a monté le projet, qu'on l'a lancé, c'était une période en fait, où, au sein de la mosquée, il y avait un peu une négligence dans l'administration de celle-ci. Donc nous, on s'est retrouvés en fait à mettre en place un projet avec des inscriptions, des gens qui nous payent, avec beaucoup d'argent. On avait de l'argent, on s'est retrouvés avec près de 10 000 euros dans nos mains, et on demande à la mosquée de nous faire un compte pour l'enseignement, pour pouvoir au moins que cet argent soit pris en compte. Et là, vu qu'il n'y avait pas forcément une très bonne gestion à l'époque, quand même on peut dire qu'il y avait quand même une véritable absence des responsables. Donc les responsables n'étaient jamais là à la mosquée. Quand on faisait des demandes, il n'y avait pas de réponse. Donc à un moment, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on reste attaché à la mosquée ou si on fait notre propre association pour éviter de se retrouver après avec de l'argent dans les mains, etc. On a voté, ce qui a été retenu, c'est de faire, de mettre en place une association. Et donc, on a quand même sollicité les responsables plusieurs fois avant de prendre la décision pour essayer de les sensibiliser à la réflexion. Ils n'ont jamais répondu à nos invitations. Donc, après, à un moment, on s'est dit, on n'a pas le choix. Donc, on a fait l'association. Et là, par contre, on n'a pas forcément eu de bonnes réactions de la part des responsables de la mosquée, qui n'ont pas vu ça d'un bon oeil, en pensant, voilà, vous faites un truc.
Ça, c'est 2007 ou c'est bien
c'est
après
c'est 2012.
2012, ah oui, d'accord, c'est bien 2012. Après. Okay.
Donc, on n'a pas fait tout de suite. Hein, c'est quand, là, on s'est vraiment retrouvé contraint de prendre cette, cette orientation-là. Et donc après, bah, depuis, voilà, on a cette autonomie du point de vue de la gestion. On est resté dans les locaux de la mosquée. Donc il y avait une mise à disposition des locaux qu'on loue. Hein, c'est-à-dire, ils nous mettent en place des, une ou deux salles de classe, on paye à l'année, de septembre à juin, et puis voilà.
Ben, je vais profiter, c'est pas l'objectif, mais si on parlait un petit peu de ce qui s'est passé avec les autorités locales, etc. L'objectif, c'est pas de parler du cas en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est de généraliser un petit peu la chose, parce que j'imagine que c'est quelque chose qui s'est produit, qui se produit ou qui va se produire pour plein d'autres associations.
Après, je pense que c'est lié après aux sensibilités politiques. C'est-à-dire que nous, quand on a mis en place l'association, on a toujours après cherché à développer notre projet. On a essayé de le faire dans le cadre de la mosquée, mais on a senti que pour la mosquée, ce n'était pas forcément bien vu. Donc on a commencé à réfléchir en fait à avoir nos propres locaux déjà depuis 2012. Hein. C'est pas... sauf que bon, après... On a commencé à avoir des relations avec à l'époque la municipalité en place, qui était une municipalité qui n'était pas défavorable à notre démarche. Donc on a commencé à entamer en fait des discussions et puis essayer de trouver une solution pour pouvoir avoir nos propres locaux. Après, la municipalité, elle a changé, elle a viré de bord. Donc dès que la municipalité a viré de bord, ça a été un tout autre discours. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de dialogue, on ne vous reçoit pas, on n'a rien pour vous, on n'a pas de solution à vous offrir, restez à la mosquée. Bon, c'était ça. Donc nous, on s'est résigné pendant un certain temps à cette réalité-là. Après un moment, on a développé les projets et le projet a commencé à prendre de l'ampleur. Donc, on a essayé de revoir avec les responsables de la mosquée de quelle façon on pouvait avoir notre place au sein de la mosquée. Et là encore, on n'a pas senti vraiment qu'il y avait un véritable engouement de soutenir le projet et d'être derrière. On leur avait proposé de trouver les financements et qu'on construit un vrai bâtiment qui soit orienté dans ce genre de choses, mais... Voilà, ça faisait pas partie des priorités. Et on a senti à un moment qu'il y avait quand même des réticences. On a ressenti comme s'ils avaient peur qu'on voulait prendre leur place, alors que c'était pas le cas. Donc du coup, on s'est relancé en fait dans une recherche de locaux. Dans un premier temps, en tant qu'association, on a sollicité la ville parce que les associations ont le droit d'avoir un local. La ville nous a dit qu'ils n'avaient pas de locaux pour nous. Donc à un moment
Des locaux à louer, c'est ça.
Ouais, à louer. Bien que pour les autres associations, ils leur donnent des locaux à titre gratuit. Mais nous, on savait, parce qu'on est association musulmane, que on voulait couper court à toute forme de polémique. D'accord. On loue et on est prêt à assumer ça, bien que c'est pas normal. En tant qu'association, on devrait bénéficier du même traitement que n'importe quelle association de loi 1901. Parce que nous, c'est une association de loi 1901. C'est pas une association culturelle, mais culturelle, l'Andalous. En fait, ce qui s'est passé, subhanallah, c'est que, ils nous ont fermé les portes. Mais en parallèle, un frère qui a entendu parler de notre projet, il a voulu nous aider. C'est un frère qui, alhamdoulilah, que Allah Ta'ala lui a facilité... tout ce qu'il entreprend du point de vue commercial, et donc il avait de l'argent, il a voulu investir un peu dans notre projet et il nous a proposé d'acheter un local et de nous le revendre quand on sera en mesure de pouvoir l'acheter. Donc, il nous a dit, choisissez le local que vous voulez. Il nous a pas mis de limite. Il a dit, choisissez, vous voyez le local qui vous convient en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et moi, je suis prêt à avancer l'argent, il n'y a pas de souci. Et vous me le remboursez et vous me le rachetez quand vous le pouvez. Donc, on s'est mis d'accord. On est parti sur un accord de principe. Et puis, donc, il a acheté le local, il a négocié, c'est passé en commission. La mairie, elle avait un droit de préemption dessus, mais vu que ce n'était pas au nom de notre association...
Ils n'ont rien vu.
Ils n'ont rien vu venir. Hein. Ils n'ont rien vu venir, donc ils ont laissé le local. Le frère l'a acheté. Et quand il a acheté, donc, du coup, nous, il fallait qu'on fasse une déclaration, déclaration préalable, des travaux d'aménagement, tout ça. Tu es obligé de faire des dossiers à la mairie, même si ce n'est pas un permis de construire. Il faut que tu poses un dossier, c'est normal. Et donc là, jusque-là, pas de problème. Sauf que quand la mairie, ils s'aperçoivent que c'est nous qui allons nous installer sur les locaux, même si ce n'est pas nous qui les avions achetés, là, c'est branle-bas de combat à la municipalité où c'est clair, il faut stopper. Il faut nous empêcher de nous installer. Et là, nous, on signe le bail mi-juin. On pose le...
Mi-juin 2019.
2019, ouais. On pose le dossier à la mairie le 18 juin. Le 8 juillet, premier arrêté pour nous interdire les choses. Ça a été très vite. Hein. Mmh. Donc nous, on n'a rien dit au début. Une semaine après, un autre arrêté pour nous empêcher de mettre une enseigne. Mmh. Donc on a eu une première opposition de la mairie sur les déclarations préalables de travaux. Après, on a eu un arrêté municipal sur l'enseigne, parce qu'on avait demandé de mettre une enseigne pour qu'on soit identifiable. Au début, on n'a pas communiqué dessus. Tout simplement parce qu'on s'est dit que ce soit la déclaration préalable ou l'enseigne, c'est pas quelque chose qui nous empêchait de faire les travaux. Donc on s'est dit, bon, on va jouer la diplomatie, on va pas rentrer en confrontation avec eux tout de suite. Et on a laissé jusqu'à ce que, en fait, il y a 4 mois en fait, de délai où le dossier de travaux d'aménagement, il passe par plusieurs services, les pompiers, la police, l'hygiène, tout ça. Ouais. Et après, la mairie, c'est... voilà. Et donc, nous, on s'est dit, de toute façon, vu comment on a fait les choses, on est passé par un bureau d'architecte avec les normes d'ERP, tout ça. On s'est dit, de toute façon, la mairie ne peut pas nous arrêter. Ne peut pas dire qu'on n'est pas aux normes. Mmh. Effectivement, c'était le cas. Donc, on sait, nous, qu'on a eu l'approbation des pompiers, puisqu'on a un frère qui travaille chez les pompiers, qui nous a confirmé que le dossier a été validé. L'hygiène nous appelle, nous dit, pour eux, il n'y a pas de problème. Donc, on est assez confiant, on se dit, bon, alhamdoulilah, ça a l'air de bien se passer. Bien qu'on connaissait l'animal, entre guillemets, la municipalité, on savait ce qu'ils pensaient du projet. Donc on était quand même un peu méfiant. Et en fait, ils ont attendu vraiment la fin du délai pour nous envoyer un troisième arrêté municipal pour nous interdire les travaux d'aménagement. Ouais. Et en fait... ils ne pouvaient pas nous interdire autrement que par un arrêté municipal. Parce que vu que c'était aux normes et qu'il n'y a eu aucun avis défavorable de la part de l'hygiène, des pompiers et de la police, la seule manière de nous empêcher de faire les travaux pour la municipalité, c'était de faire un arrêté. Parce qu'un arrêté, du coup, vu que le maire il est quand même premier magistrat de sa ville, la seule façon de faire abroger l'arrêté, c'est de passer par le tribunal administratif.
Il est premier magistrat
de la préfecture
de la ville.
C'est pas la préfecture.
Non, c'est le maire qui est premier magistrat de sa ville.
Mais après
le préfet, il représente l'État. Ouais. Mais le premier magistrat de la ville, c'est le maire. Et donc, on a essayé de faire un recours gracieux. On a essayé de contacter l'équipe municipale pour essayer de trouver une solution. Là, c'est silence radio.
Ouais.
C'est le mépris total. Hein. C'est même pas on veut discuter avec vous.
Farid, tu disais tout à l'heure les sensibilités politiques. Est-ce que tu penses que le genre de problème que vous rencontrez, il existe un peu partout hein,
Oui, mais il y a quand même des cas qui se résolvent plus facilement en fonction de la sensibilité politique.
Mais est-ce que tu penses que dans la communauté musulmane, au sein des associations, que ce soit mosquée ou autre, on n'a pas certaines compétences de politique en termes de relations publiques, de lobbying, etc. On n'a pas ce travail de fond qu'on fait avec... Est-ce que c'est un blocage religieux ou est-ce que c'est simplement...
Je pense que... Il y a surtout du fantasme religieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui estiment que s'impliquer dans la vie politique ou même voir voter, tout simplement voter, c'est considéré comme quelque chose qui est incompatible avec la foi musulmane. Et donc forcément, ça freine après les gens à s'impliquer dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la communauté, elle est immature à ce niveau-là. C'est que malgré que la communauté qui est issue quand même de l'immigration maghrébine, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on est là, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de conscience politique de la communauté. C'est très jeune, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui commence à naître, alors qu'en vérité, ça fait pour certains plus de 50 ans qu'ils sont en France. Et voilà, on est très en retard par rapport à des pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme d'autres pays. Quand tu vois qu'en Angleterre, il y a plusieurs grandes villes qui sont administrées par des maires musulmans aujourd'hui, alors que la communauté musulmane, elle est bien moins grande que celle qu'on a en France. Donc, ça interpelle. Ça interpelle. Mais après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'immigration qu'on a eue en France, c'est pas la même.
Ouais.
Là, on est quand même dans une immigration essentiellement de gens qui sont venus travailler dans les usines, une immigration de cadres ou d'intellectuels en France. Aujourd'hui, c'est la génération des jeunes, voilà, qui sont issus de parents qui ont émigré, qui commencent à changer les choses. Alors que l'immigration qu'il y a eu, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, c'est plus une immigration, voilà, de gens qui sont des cadres, des intellectuels. Et c'est ce qui fait que, je pense, ça change beaucoup de choses.
Après, le système politique n'est pas le même. En termes de représentativité de leur population, etc.
Il y a une spécificité.
Les démocraties ne sont pas les mêmes, je veux dire.
Non, mais je pense qu'aussi la France, oui, effectivement, elle a une spécificité elle a du mal, je pense, à s'ouvrir aux gens qui sont issus de l'immigration, les gens qui sont ce qu'ils appellent la diversité. J'aime pas trop ce mot, mais.
voilà.
C'est ce qu'ils disent, quoi. Les gens de la diversité, on sent aujourd'hui qu'il y a quand même. Voilà. C'est-à-dire que bon, on est prêt à accepter quelqu'un qui est issu de cette diversité, mais à condition qu'il n'ait pas trop d'ambition. Tu vois. On lui rappelle quand même d'où il vient, et ça, c'est problématique quand même dans ce pays.
Mais aujourd'hui, s'il y a des élections municipales, et puis toi, en tant qu'imam, tu dis dans la mosquée qu'il faut aller voter, que c'est important, tu penses que les gens qui sont devant toi, ils vont accepter ça, à ton avis, ou... réticence, elle est plutôt chez les responsables ou chez les
populations. Aujourd'hui, les responsables, ils encouragent à ce genre de démarche. Encore hier, moi, j'ai fait une conférence, c'était à Ambérieu, en Bugey, où on a parlé de ce souci-là et de la question du vote, puisqu'on approche des périodes électorales. Je pense que les gens, aujourd'hui, commencent à prendre plus conscience de l'enjeu qu'il y a derrière. Sur des élections locales, je pense que les musulmans, il ne faut pas qu'ils passent à côté. Parce que oui, sur une élection nationale, c'est pas ce qui va jouer beaucoup. Mais sur des élections locales, c'est des élections locales, un maire, il peut passer sur sur des dizaines de voix ou des centaines de voix. Donc, tu peux pas dire que ton vote, il est pas important. Donc, c'est pour ça que, effectivement, nous, localement parlant, on essaye de sensibiliser les gens au moins sur ces rendez-vous-là.
D'accord. Donc, vous donnez des consignes de vote ou... Ça reste sous-entendu.
Non. Aujourd'hui, on ne donne pas
de... Il y a des choix par défaut.
On demande aux gens de s'inscrire pour qu'il y ait du poids. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les candidats aux élections, c'est ce qu'ils font. Ils regardent la liste électorale. S'ils voient beaucoup de musulmans, ils s'intéressent à la question de l'islam. S'ils ne voient pas beaucoup de musulmans, c'est le dernier de leurs soucis. Donc, sur Chambéry, j'avais bien aimé la démarche de certains... Chambériens qui ont monté une sorte de mouvement citoyen pour se présenter aux élections. J'ai aimé la démarche. Donc, ils sont tout de suite venus nous voir. Ils ont demandé qu'est-ce qu'on en pensait. Ils souhaiteraient qu'on s'implique avec eux dans ce travail. Moi, je leur ai expliqué que de toute façon, la politique, je ne préférais pas m'investir dans la politique, mais que je me ferais le relais auprès de gens qui seraient intéressés. Donc, on leur a proposé des personnes, ils les ont accueillis, alhamdoulilah.
Donc, on n'est pas dans une démarche stratégique en disant on va se placer, on va s'orienter ou se placer avec les personnes, les politiciens avec lesquels on a plus à y gagner. C'est vraiment sur le projet en lui-même.
Ouais, c'était ça. Non, nous, on n'est pas.
Je ne parle pas que de vous.
Mais aujourd'hui, parce que c'est quand même... qu'il y a certains musulmans qui vont se placer comme ça. pour les intérêts, par exemple, d'une mosquée ou quoi que ce soit. Non, nous, c'était surtout, on voulait défendre un projet dans lequel on se reconnaissait le mieux. Pas forcément quelqu'un qui, on sait qu'il va gagner les élections.
Donc là, on sort du cadre de votre projet à proprement dit. C'est-à-dire que là, tu sacrifies un petit peu, pas sacrifier parce que peut-être qu'ils peuvent être arrivés en tête des élections, mais tu sacrifies un petit peu le projet, tu ne sacrifies pas, mais on le rend plus difficile.
Non, après, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas donné de consigne. C'est-à-dire que nous, on a des sensibilités, moi personnellement, j'ai des sensibilités par rapport à ce qui est proposé, mais en termes d'association, on ne va pas dire vous votez pour un tel ou un tel. Nous, l'objectif, c'est de sensibiliser sur D'accord. ça, sur le vote. Ouais. Après, on est sur le terrain quand même, on travaille même avec plusieurs structures donc non musulmanes. Donc, ce qui fait qu'on a gardé cette neutralité, D'accord. on a vu tous les candidats, on leur a exposé notre problème.
C'est bien.
D'accord. C'est pas ouais. un candidat. Le seul candidat qu'on n'a pas vu, c'est l'ancien maire, parce qu'on sait quelle est sa position. Ouais. Et puis même lui, il ne veut pas discuter avec nous, quoi qu'il D'accord. en soit.
Et aujourd'hui, il y a quoi comme la situation, elle est où?
Alors la situation, c'est ce que je disais, nous, on a commencé par un recours gracieux. Ils ne nous ont pas répondu. On a fait un recours hiérarchique au niveau de la préfecture et du ministère de l'Urbanisme. Pareil, pas de réponse. Donc, pour le coup, après, on a... Ça, c'était sur les deux premiers. Après, sur le troisième, on a encore fait une demande de recours gracieux. Là, du coup, on a eu une réponse de la mairie qui nous dit, en gros... On reste sur nos positions et ils n'apportent pas d'arguments. En fait, ils n'apportent pas d'arguments. C'est juste dire, si vous voulez, vous pouvez saisir le tribunal D'accord. administratif. Ce qu'on a fait. Donc, on a pris un avocat. Donc, on a demandé à ce que notre dossier, l'antidossier avec les documents qui disent que l'avis des pompiers, etc., nous soit fourni. La mairie n'a pas voulu. Aujourd'hui, notre dossier, il n'est pas consultable. C'est comme si c'était secret défense. C'est-à-dire que quand on va au service urbanisme, on dit on veut voir tout le dossier, il n'y a pas de dossier. C'est parce qu'en vérité, ils savent qu'ils sont... Même l'avocat, hein, il nous a confirmé que eux-mêmes, je pense, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas très... Ça n'a pas été très légal, ce qu'ils ont fait. Et que du coup, ils savent qu'ils ne peuvent pas se justifier. On a médiatisé la chose. Les journaux locaux ont interpellé la mairie pour avoir des explications. Aucun retour de la mairie. Mmh. Donc, ils se murent dans un silence... complet. À côté de ça, en off, ils nourrissent de la propagande. Mm. Ils veulent faire une école coranique. Mm. C'est des gens qui sont proches du milieu frériste, des trucs comme ça. Voilà, ouais. Tout ce qui est connu comme diversion pour justifier leur position.
Donc votre stratégie, c'est Tu voulais dire ok.
Non, vas-y.
Donc votre stratégie c'est d'aller en justice et
c'est ça. Okay. Bon, après c'est ça, ils jouent la montre. Après on sait, le truc c'est que de toute façon il y a les élections, si le maire il change, on pourra demander une abrogation d'arrêter. Donc quand on a parlé nous avec les candidats, les autres candidats ils ont dit pour nous ça sera facile. Dans le sens où ils nous ont pas fait de promesses.
Ouais.
Mais comme quoi en gros il nous faut comprendre que ils savent que nous, on n'est pas un problème pour le quartier.
C'est quoi l'état d'esprit de la communauté à Chambéry? C'est-à-dire, est-ce que vous gérez cette situation de manière
isolée,
c'est-à-dire avec un groupe restreint ou est-ce que vous sensibilisez la communauté? Est-ce que vous sentez qu'il y a
la communauté, qu'il y a une dynamique? Il y a un soutien, il y a les gens qui ne comprennent pas, il y a beaucoup de gens qui ont interpellé la municipalité et qui interpellent même les candidats sur cette question-là. C'est devenu même une question qui est posée aux candidats de la municipale. Voilà, cette association, elle veut faire ça. Nous, on a nos enfants, ils ont 50 adolescents. Il n'y a aucun centre social qui fait ce qu'ils font. Et vous les empêchez de travailler. Et donc, ça met un peu la pression sur les candidats. Ouais. Non, on sent quand même que les habitants, ils sont là. Les membres de la communauté qui ont leurs enfants D'accord. chez nous... leurs jeunes, surtout au niveau des jeunes, parce qu'on est dans un cas de jeunes qui ont grandi, qui ont été pris en charge à un moment par la mosquée, qui n'ont pas forcément bien vécu cette expérience au sein de la mosquée. Et les parents ont toujours forcé à amener à la mosquée pour faire les choses. Et ces mêmes jeunes, les parents, ils ne comprennent pas, ils nous disent « Mais qu'est-ce que vous leur faites à ces jeunes ? C'est eux qui nous demandent de les emmener.
» Et c'est quoi la règle?
Non, c'est secrète. Tout simplement qu'on a mis en place un programme en tenant compte des réalités de ces jeunes-là. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est, même la façon de transmettre les informations, la façon aussi de parler avec eux, la façon aussi de faire que le cours soit aussi pas trop académique, mais qu'il y ait aussi des moments d'échange. On fait aussi des sorties avec eux, on les emmène en séjour, donc en vacances. Donc il y a un certain attachement qui s'est fait, donc je pense avec l'équipe. Donc après, ça, c'est quelque chose qu'on a réfléchi en amont pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de cette jeunesse. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les mosquées, on prend en charge les enfants de 4 à 12 ans ou à 15 ans. Puis après, on ne s'en occupe plus. On laisse cette phase de l'adolescence. Ouais, ouais. Et après, on reprend les gens quand ils sont adultes dans les formations. Nous, on a décidé de s'intéresser à cette tranche d'âge de jeunes, de 12 à 18 ans, même si ce n'est pas facile. Et de leur proposer quelque chose qui va leur plaire.
Tout à l'heure, tu parlais d'ouverture de dialogue avec d'autres communautés, parce que le message, l'idée aussi, c'était de s'ouvrir à d'autres communautés. Quand tu dis ça, c'est quoi? C'est de l'échange interreligieux?
Quand je dis vraiment l'échange, c'est pas que avec les communautés religieuses.
D'accord.
Nous, on s'inscrit chaque année, par exemple, on fait des actions pour le Téléthon, donc au sein du quartier. On s'inscrit aussi dans une démarche qui s'appelle la journée du mieux vivre ensemble, avec, je ne sais même pas trop le terme, où en fait, en gros, toutes les communautés religieuses ou ethniques se rassemblent sur un même lieu où on propose en fait des animations, des choses comme ça. Donc nous, on propose aussi des animations. On a fait une animation l'année dernière de calligraphie et de mosaïque.
D'accord.
Donc sur toute la journée. Ça a fini le soir par un repas qui a été proposé après le marleb parce que c'était pendant le ramadan. Donc non, c'était une bonne expérience. On fait aussi on est pas mal présent en fait sur le quartier avec tous les habitants, pas forcément avec que les communautés religieuses, même si on essaye de mettre en place
ça. C'est un travail que vous avez pu présenter
oui, mais ils sont comment, ils savent tout
à la mairie,
oui, ils savent. D'accord. Ils savent, c'est pour ça qu'en fait ils sont un peu embêtés parce qu'ils ne peuvent pas attaquer le projet directement parce qu'ils n'ont pas d'arguments pour le faire. Et aujourd'hui, même les structures du quartier, elles vont contre la mairie dans leurs orientations. Nous, on sait que, par exemple, il y a le centre socio-culturel, il a fait de notre association un partenaire privilégié.
Okay.
Donc, et c'est des non-musulmans, donc... Voilà, et il dit qu'on assume, le directeur du centre, il dit on assume cette position et on va la défendre. Donc on a du soutien même dans les structures qui ne sont pas forcément musulmanes. Hein. Sur le quartier maintenant, l'association, elle a fait son travail, les gens la connaissent. Ils savent que, alhamdoulilah, on fait des choses clairement et on n'a jamais caché. On est une association musulmane, on a un volet qui est un volet comme ça, un autre volet qui est le fait de travailler avec les gens à l'extérieur. Ils sont au courant de tout ça.
Al-Andalus, pourquoi l'Andalus?
Alors l'Andalus, c'était symbolique, c'était justement Andalus, c'était cette période de la présence des musulmans en Europe avec cet apport positif dans tous les domaines, notamment scientifiques, mais aussi dans la pensée, dans le fait que les communautés vivaient en harmonie. Il y avait des communautés chrétiennes, juives et musulmanes, donc dans un même espace où chaque communauté, elle était prise en considération, et c'est ça qu'on voulait. C'était pour rappeler un peu cette époque-là du fait que, malgré que les communautés elles étaient différentes, elles ont réussi à construire quelque chose de grandiose à l'époque où ça a été fait. Quand tu vois que les communautés, aujourd'hui, tu as des historiens juifs qui disent que l'âge d'or de la communauté juive, c'est l'Espagne musulmane. Donc c'est ça, nous, c'était la symbolique, c'était de se dire que même si on est musulman, voilà, nous, on reprend un peu comme symbolique cette époque-là, qui était une époque, justement, d'ouverture et de respect des différentes communautés et de favoriser, justement...
Peut-être ils ont compris Andalous, Poitiers.
Oui, après, je pense que certains ont dû voir ça comme ça. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait une personne qui avait commenté une chose dans... je ne sais plus si c'était dans une page sur les réseaux sociaux, en disant... Elle a mis association à l'Andalouse, c'est tout un programme, mais de façon sarcastique, tu vois, tout ce que ça implique. Ouais. Bah oui, parce que pour eux, c'est l'Espagne musulmane, c'est il faut repousser les sarrasins pour certains, c'est ça. Oui, il y a des gens qui, je pense, ils ont pris ça comme une
provocation.
Voilà.
Donc, en ayant vécu, et puis tu es toujours en train de gérer cette situation, ce serait quoi comme leçon à prendre de cette expérience, en rappelant que c'est une expérience qui va après, se répéter sûrement.
T'as pas compris, là, c'est du rap, du basket. Il n'a pas révisé pour son bac. Il s'est présenté à un parc plus haut.
Je fais ça. Ouais, mais je parle spécifiquement de l'affaire de l'association de l'Andalus. Non, mais après... Est-ce qu'il faut toujours aller dans cette optique de bras de fer, on fait les recours après recours, et puis on suit les choses, arriver en justice, etc. Ou travailler plutôt dans le côté politique, attendre la nouvelle équipe, et puis mobiliser les gens pour que l'équipe change, etc. Il y a plusieurs stratégies, à ton avis.
Oui, bien sûr. Même... Non, mais je pense que nous, de toute façon, on a été contraints à cette situation. On ne l'a pas voulu, hein. Même cette confrontation avec les pouvoirs locaux, ce n'était pas ce qu'on voulait. Mmh. Nous, on a essayé de reculer l'échéance autant qu'on pouvait, mais à un moment, on ne pouvait plus. Mmh. Parce que la situation, elle n'était pas acceptable non plus, donc il fallait le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a un travail qui est en amont et une implication un peu plus de la communauté dans la société civile et même dans le domaine public, on règle ce genre de problème plus facilement. Je pense qu'il y a des préjugés, il y a des peurs qui sont alimentés par certains discours médiatiques ou politiques qui créent les fantasmes. Ils créent des fantasmes. Après, si nous, on n'est pas là aussi pour atténuer les fantasmes et rassurer aussi la population sur certaines choses, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des difficultés. Mmh. Après, oui, il y aura toujours des municipalités qui sont réfractaires. C'est un peu le cas chez nous. Mmh. Je pense qu'ils savent au fond d'eux qu'on n'est pas un problème. Mais c'est l'idée même de nous voir implantés sur ce lieu qui les dérange. Hein. C'est pour ça, eux, ils n'ont pas vraiment d'arguments probants hein, dans leur refus. Et ils savent bien en même temps qu'on n'est pas un problème. Parce que ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ne veulent pas nous laisser nous installer dans nos locaux. Mais quand on demande une salle pour pouvoir faire une conférence, ils ne nous la refusent pas.
Ouais.
Tu vois, c'est assez paradoxal comme attitude. C'est qu'ils sont conscients qu'on n'est pas un problème, hein, qu'on n'est pas des gens dangereux, qu'on n'est pas dans une dynamique de repli ou quoi que ce soit. Mais c'est qu'ils ne veulent pas nous voir sur place. Il y a trop de visibilité pour eux. Parce qu'en fait, vraiment, le local, il est au cœur du quartier. Il est juste en face de la mairie de quartier.
D'accord.
Donc, à mon avis, je pense que c'est plus un problème de visibilité qu'autre chose.
Mmh. Et la personne qui a acheté le local, il veut toujours le garder, aller dans ce...
Nous, on l'a rassuré aussi. Hein. Okay. C'est sûr qu'il était inquiet à un moment. Il s'est dit, qu'est-ce que ça va devenir, cette histoire ? Donc nous, on l'a rassuré, on lui a dit, on ne lâchera pas. C'est aussi une des raisons pour lesquelles aussi, on ne lâchera pas. C'est qu'on a pris un engagement vis-à-vis de ce frère, il a quand même investi de son propre argent, on ne peut pas lui dire, bah, du coup, on a des difficultés, débrouille-toi maintenant.
Il faut être courageux pour faire ce qu'il a fait.
Moi, j'aimerais parler de... Parce que tu as parlé beaucoup de social, de présence dans le quartier, donc tu es pas mal investi, en fait. L'Andalouse est pas mal investi avec une partie de la communauté, les moins jeunes et les plus jeunes. Comment tu c'est quoi aujourd'hui ta perception de cette jeunesse là? Moi quand je travaille un petit peu dans le public, je suis à la rencontre informelle avec cette population là, avec nos jeunes, et je suis pessimiste. Il y a ça dans certains cas, je suis pessimiste. Je dis mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'ils font? Toi, comment tu vois la tendance?
Non, c'est sûr que la jeunesse, l'état de la jeunesse, elle s'est dégradée. Ouais. Elle s'est dégradée, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Mais en même temps, je ne serais pas aussi...
Juste terminé, tu vois. Et souvent, on a ce... Excuse-moi de t'avoir coupé.
Oui, je t'en prie.
Ouais. Toujours les mêmes, tu vois. On a toujours ces réflexes de dire toujours les mêmes. C'est la phrase du raciste, en fait. Ok, c'est frustrant.
Non, mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, cette jeunesse, elle n'est pas arrivée là comme ça par hasard. C'est qu'on a, il y a eu tout un processus de faire en sorte que cette jeunesse, elle perde ses repères identitaires, qu'on la coupe de son histoire, qu'on la mette face à l'échec pour... voilà, c'est des jeunes, c'est pas forcément qu'ils sont mauvais. Quand tu vois... Moi, je vois dans le quartier, il y a des fois des jeunes, quand tu les prends individuellement, ils sont super, ces jeunes. Mais voilà, c'est des jeunes à qui on n'a pas donné la chance de pouvoir...
Est-ce que c'est pas victimiser, ça? Les infantiliser? Parce qu'à un moment, t'es responsable.
Je suis d'accord, c'est ce qu'on leur dit, nous. Ouais. Nous, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, voilà, ben même si on vous met des bâtons dans les roues, on veut pas te prendre un travail. Ben, je dis, va monte ta boîte. Voilà ce que je leur dis. Je dis, on veut pas te donner du travail, ben monte ton entreprise. fais en sorte, va te former et essaye de te prendre en main. Nous, on est justement dans la formation des jeunes, on essaye de leur inculquer justement de ne pas tomber dans le discours de victimisation, mais justement d'essayer de faire, de faire changer la tendance par une implication personnelle. Parce que c'est facile de baisser les bras quand on te dit non, mais en vérité, tu peux prendre une autre...
Vous avez un accompagnement avec du public sensible comme ça ? Est-ce qu'il y a un accompagnement au cas par cas ?
Ce qu'on fait, c'est un accompagnement général où on donne un accompagnement général auprès des jeunes. Mais après, quand on voit qu'il y a des cas, effectivement, qui sont un peu délicats, on fait aussi de l'accompagnement personnel où on les prend à part, on discute un peu avec eux. Je sais que les parents, aujourd'hui, ils sont confrontés à des difficultés avec certains jeunes qu'on a. Ben, ils nous le disent. Ce serait bien, est-ce que vous pouvez parler aux jeunes, voilà, à nos enfants, voilà ce qu'il a fait. Il faudrait que vous essayiez de leur expliquer que ce qu'ils font, c'est pas normal. Alhamdoulilah, vu qu'il y a un climat de confiance maintenant qui s'est établi avec ces jeunes, on arrive à discuter. Ils voient qu'on les juge pas. Donc on se met pas dans une position de jugement. On leur dit juste, on les interpelle. Moi, souvent, je dis à ces jeunes, voilà, t'as fait ça, tu penses que c'est normal. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Je me rappelle, il y avait un cas où il y avait tout un groupe des jeunes qu'on avait qui étaient montés sur un immeuble de 18 étages, ils ont été sur le toit pour faire un selfie. Et du coup, l'un des parents, il les a attrapés en flagrant délit, donc il est venu m'en parler. Il m'a dit, ce serait bien que tu leur en parles au prochain cours. Donc, et je leur ai dit, oh, mais comment tu sais ça, toi? Mais après, du coup, on a discuté, je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est normal comme attitude? Vous êtes mis en danger, vous, déjà? Je dis, vous avez inquiété vos parents, et puis même du point de vue de l'image que vous donnez, est-ce que vous pensez que c'est une image positive? Donc, alhamdoulilah, ils arrivent à comprendre les choses, ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est n'importe quoi, mais c'est l'effet de groupe, en fait. L'effet de groupe qui fait que, des fois, mais ça reste des jeunes, généralement, les jeunes, ils restent quand même bons. C'est juste qu'on ne leur permet pas d'avoir un espace qui leur permette de vraiment s'exprimer positivement. Nous, dans notre quartier, moi je le vois, le quartier, j'ai grandi dedans, je vois comment il se dégrade. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de moyens qui sont donnés à la jeunesse, il y a de plus en plus de discrimination à l'embauche, il y a de plus en plus aussi même de discrimination des fois sur des projets. Et donc après, les jeunes, ils vivent ça comme un échec. À côté de ça, il y a cette solution de facilité, de se faire de l'argent facilement. Ça ne me demande pas d'effort, je n'ai pas besoin de travailler. Donc nous, on essaie de leur faire comprendre que, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une solution de vivre de cette façon-là. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile.
Je suis en train de penser à l'association Rénovo. Tu connais Rénovo ?
Oui, je connais.
Ouais, Rénovo, donc voilà, ils ont un petit peu le projet. Enfin, le projet, ça fait une dizaine d'années ou une quinzaine d'années ?
Un peu moins, je crois. Un peu moins de 15 ans. Oui, je m'en souviens que j'avais connu le président au début de la mise en place de ce...
Donc leur idée, en fait, c'est dénicher les jeunes à fort potentiel intellectuel.
Ah, et les aider à se développer.
Voilà, etc. De les mettre en réseau ou de les introduire dans des grandes écoles.
C'est ça.
Et donc, c'est peut-être ce qui nous manque aussi, ce genre de projet. C'est-à-dire, nous, on est toujours dans le social, criminalité, etc., prévention, etc. Mais peut-être développer ce genre de projet, ça donnerait confiance à cette jeunesse. En disant, finalement, mon voisin, il est dans une grande école, etc. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas mon fils, ma fille, etc.
C'est ça. Ouais.
Je trouve le projet génial.
C'est sûr que, oui, il y a plusieurs projets qui vont dans ce sens-là et qu'il faut encourager, c'est sûr. Après, c'est vrai que notre vocation au niveau de notre association, dans un premier temps, c'était surtout de donner des repères spirituels et du point de vue de l'islam. Après, ça s'est développé par le fait aussi de s'inscrire dans la participation aussi au quotidien, dans notre environnement. Et l'objectif, c'était pas seulement, en fait, les gens qui viennent chez nous, c'était pas seulement de faire de la théorisation des principes qu'on leur apprend, mais après, de le mettre en pratique à travers des actions.
Ça parle, ouais.
C'est ça le projet global, en fait. C'est pas rester sur la théorisation, mais mettre en application les principes.
On a fait une petite randonnée chez l'Andalouse. Ouais. On arrive à la fin du podcast. La question traditionnelle, c'est si tu devais te définir en trois verbes, Les verts, pourquoi? Parce que c'est de l'action, etc. Lesquels tu choisirais?
Ah, je sais pas. C'est difficile de se définir déjà. Enseigner.
Enseigner. Ouais.
Ça, c'est. Je pense que.
À part manger, boire et dormir.
J'allais dire ça. Non, ouais, non. Enseigner.
Rapper.
Hein?
Rapper.
Non, ça c'est fini. Ça, c'était, c'était il y a longtemps, ça. À part le fromage et les carottes. Mais... Non, plus dans le, dans le sens de, ouais, de s'impliquer aussi.
D'accord.
Et puis dénoncer.
Ouais.
Ouais, c'est un peu ma personne.
Bien. Une autre question aussi traditionnellement qu'on pose à nos invités, c'est de dire si tu avais la possibilité de faire une randonnée,
oui,
avec des personnes, des personnes contemporaines ou des personnes de l'histoire, à part les prophètes, tu choisirais quoi comme personne? Pourquoi?
Alors, moi, je ferais bien une randonnée avec toutes ces personnes qui se sont inscrites dans le fait de se lever contre les injustices. Hein, ouais. Des gens comme Malcolm X, Martin Luther King, voilà. Rosa Parks, ouais. Voilà, Gandhi, ouais. Des personnes comme ça qui, voilà, mm. qui ont refusé en fait qui ont refusé l'injustice et qui, ouais, ont lutté, qui ont donné leur vie, ouais, leur personne pour essayer de réintégrer la dignité humaine chez certains.
Mm.
Ça, c'est un truc qui me parle. Ouais.
Mmh. Très bien.
On arrive à la fin de la podcast. Merci beaucoup.
Une dernière question. Pour les gens qui veulent te trouver sur Internet, tu as une présence sur Internet pour les gens?
Alors,
qui, ou l'association?
Bon, après, hein, les réseaux sociaux, l'association, elle a une page.
Ouais.
Hein, donc, Centrale Andalous. Moi, j'ai une page personnelle, donc Farid Slim. On a aussi un site Internet, donc elandalous-du-673.com. Mais on est plus présent sur les réseaux sociaux que sur le ouais, site en lui-même. Après, on a aussi une chaîne YouTube,
ouais,
donc, okay, où on, d'accord, fait des vidéos aussi. Ouais. Voilà.
Mm-hmm. Ok, très bien.
Oui. Je te laisse terminer.
Alors, en clôture, merci beaucoup notre cher imam Farid Slim pour cette randonnée. Et puis, merci Mohamed.
Merci à toi.
À nos auditeurs, comme d'habitude, on vous demande de réagir, de nous écrire, de partager si vous aimez. Nous sommes présents sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, n'oubliez pas de noter notre podcast, surtout sur iTunes, parce que ça nous permet de monter un petit peu dans le catalogue d'Apple. Voilà, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.